Nous pourrions lire ensemble quelques courts passages dans le livre des psaumes qui évoquent la croissance, la prospérité. Premièrement, dans le psaume 37e. Psaume 37e, le verset 35. J'ai vu le méchant puissant et s'étendant comme un arbre vert, croissant dans son lieu natal. Mais il passa, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé. Psaume 73, verset 3, psaume d'Asaph. J'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants, car il n'y a plus de tourment dans leur mort, et leur corps est gras. Verset 12. Ceux-ci sont des méchants et ils prospèrent dans le monde. Ils augmentent leur richesse. Certainement c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai été battu tout le jour et mon châtiment revenait chaque matin. Si j'avais dit je parlerais ainsi, voici j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux, jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris leur fin. Certainement, tu les places en des lieux glissants, tu les fais tomber en ruine. Et en contraste, dans le psaume premier, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Et enfin, au psaume 92, psaume 92 et verset 12, « Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants. » Afin d'annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. Ces quelques passages auxquels on pourrait en ajouter beaucoup d'autres placent devant nous la prospérité, la croissance de deux catégories bien distinctes de personnes. Les uns, les premiers, appelés des injustes, des incrédules, des méchants. Les autres, dans les derniers passages, des justes, des fidèles, ceux qui connaissent Dieu lui-même et qui sont en relation vitale et filiale avec lui. Tous prospèrent, tous recherchent à croître, mais dans des domaines et poursuivant des buts combien différents, combien opposés. Il nous est dit que le méchant prospère dans son lieu natal. Quel est le lieu natal de l'homme pécheur, si ce n'est une scène de péché? C'est dans cette scène corrompue, souillée, que l'homme naturel cherche à progresser, s'établir, s'élever. Mais la parole nous a dit qu'elle en est sa fin. Dans ce monde où l'homme naturel est animé par l'orgueil, il ne cherche qu'à s'élever. On peut dire qu'il poursuit trois buts dans cette croissance. Il recherche les biens matériels, la fortune. Et nous savons que ce que la parole nous dit de ces biens-là, ils sont éphémères. Les richesses mêmes sont des richesses rouillées, nous dit l'Écriture. Il cherche aussi le pouvoir, le besoin de dominer, souvent au détriment de ses semblables. Il cherche la gloire. Mais la parole nous dit aussi que l'homme en honneur ne dure pas. Le besoin de croître, de grandir, de progresser est en quelque sorte inné à l'homme. Quel est l'enfant qui n'a pas dit « quand je serai grand » Mais de quelle grandeur, à quelle grandeur devons-nous aspirer? Le méchant donc croit dans sa condition naturelle. Il se développe, il cherche à se faire une place sur cette terre, pour cette terre, pour des choses éphémères qui, tout à l'heure, prendront fin et desquelles il ne restera rien. Quand Asaph a constaté cette réalité, il peut le dire, ce fut pénible pour lui. Ces hommes incrédules, qui n'ont que la vie présente pour objet, qui ne recherchent que les choses de cette terre, la satisfaction de la chair, ils progressent, ils paraissent être sans trouble, voire même dans leur mort, et après la mort. Mais il est arrêté dans ces constatations-là, lorsqu'il peut dire « jusqu'à ce que j'entre dans les pensées de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, alors je compris leur fin ». Lorsque l'homme rencontre le Seigneur, quelle est l'action divine à son endroit ? Précisément briser l'homme. Il le jette à terre, comme un arbre, comme nous le voyons dans la personne de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il a été jeté à terre. Il faut que l'homme naturel trouve sa fin, et il la trouve dans la croix de Christ, pour qu'il puisse être dans la main du Sauveur et de celui qui sera son Seigneur, un instrument duquel il pourra se servir. Mais le croyant est appelé à croître. Il est également appelé à croître, mais il n'a pas pour ressource les mêmes éléments que ceux que recherche l'homme incrédule, le méchant, l'injuste, qui n'a à sa disposition en quelque sorte que la chair qui est en lui, le monde qui l'entoure et Satan qui le pousse. Mais par la grâce de Dieu, le croyant dispose de ressources de la plus haute valeur et qui seules peuvent produire une croissance qui soit véritablement pour son profit, d'un profit présent déjà, mais d'un profit éternel. La parole nous parle beaucoup en rapport avec les croyants de l'état d'enfance. Puis elle nous parle aussi de l'état de maturité ou l'état d'homme fait. L'enfance est un état précieux. L'enfance chrétienne, l'enfance spirituelle même. Quelle fraîcheur trouvons-nous dans une âme renouvelée, une âme qui depuis peu connaît le Seigneur, lui appartient, trouve sa joie en lui et démontre la réalité d'un attachement à sa personne, le premier amour. Quelle valeur que ce premier amour ! Il rayonne autour de lui, et nous le ressentons, et souvent nous devons dire, approchant de jeunes convertis qui, depuis fort peu de temps, ont appris ce qu'est la grâce, ce qu'est un Seigneur qui nous sauve, un Sauveur qui nous sauve, nous en sommes rafraîchis. État d'enfance. Mais comme dans la vie naturelle, l'enfance a toute sa valeur, toute sa fraîcheur. Mais ce n'est pas normal si nous restons dans cette condition-là. L'enfance a toute sa valeur dans la mesure où l'on en sort. Quels sont les parents qui, ayant de petits-enfants, jouissant pleinement de cette candeur, de cette crédulité, de cette simplicité, de cet amour ouvert des premiers temps, ne seraient pas inquiets s'ils devaient constater que leurs enfants ne se développent pas? Certainement qu'ils iraient à la recherche des plus grands spécialistes pour qu'on en trouve les causes afin d'y remédier sans retard. Sur le plan spirituel, nous avons connu cette enfance lorsque nous sommes nés de nouveau, où on a respiré, on peut dire, avec une reconnaissance particulière, l'atmosphère de la grâce, ce que le Seigneur a placé dans nos cœurs. Mais Dieu veuille qu'il y ait un développement. Il n'est pas normal qu'un croyant demeure des années, des décennies, au même stade spirituel. Il doit y avoir croissance. Et le verset que nous avons lu dans le psaume 92 nous donne un exemple qui est plein d'éloquence, puisqu'il nous est dit que le juste croît comme le palmier et comme le cèdre du Liban. On est toujours émerveillé en constatant le port, la stature d'un palmier. Surtout dans les pays désertiques, nous le savons bien, le palmier croît souvent dans un lieu particulièrement aride. Et pourtant, il se développe. Mais pourquoi ? Parce qu'il plonge ses racines dans les eaux. Ce n'est pas autour de lui, ce n'est pas à la surface qui l'entoure, qu'il trouve sa nourriture, qu'il trouve l'eau. Il va plonger ses racines dans les eaux. Une condition qui peut-être n'est pas visible, a priori. Il faudra peut-être creuser pour voir où il plonge ses racines et nous trouverons l'eau qui l'alimente et qui produit cette croissance. C'est ainsi aussi que le croyant plongeant ses racines dans une eau qui l'abreuve, comme nous en parle le chapitre 17 du prophète Jérémie, deviendra cette plante qui croît, dont le feuillage ne flétrit pas, qui prospère et dont la ramure s'étend. Le palmier est un arbre qui croît dans un lieu aride, mais pour autant qu'il puisse s'abreuver en plongeant ses racines, et son tronc s'élance sans détour vers le haut. Et c'est en haut qu'il s'épanouit. Dieu veuille que la vie chrétienne, dans laquelle la grâce divine nous a introduits, produise une telle réalité. Nous élevons au-dessus de l'aridité d'un monde qui ne peut rien nous donner, où tout n'est que sécheresse, aridité, qui nous accorde de nous élever sans perte de temps, sans détour, vers les sphères élevées, ou alors, à l'instar du palmier, il y a cet épanouissement, et c'est là que les fruits se manifestent. Si nous pensons au cèdre, c'est une structure toute différente. Dès le bas, il y a cette ramure abondante, particulièrement luxueuse, une plante luxuriante. La beauté de ce qui se manifeste à l'extérieur et qui n'échappe pas au regard du passant, du voyageur. Un arbre d'un port magnifique, qui peut évoquer l'aspect du témoignage rendu dans ce monde. Mais faut-il aussi pour lui qu'il soit près des eaux ? Que le juste croisse véritablement selon cette évocation du psaume 92, ce vœu divin pour la bénédiction de nos âmes, comme le palmier et comme le cèdre du Liban. L'état d'enfance, nous l'avons dit, est un état précieux, plein de fraîcheur. Mais il y a l'aspect négatif. Lorsqu'on reste dans cet état d'enfance, qu'il n'y a pas de développement, nous parlons spirituellement, et bien des passages dans la parole soulignent cet état fort regrettable, cette absence de progression, de croissance. L'apôtre Paul, qui écrivait aux Corinthiens, pouvait leur dire que, en raison du fait qu'ils étaient charnels, il ne peut pas leur donner à manger de la viande, de la nourriture solide. Il doit revenir aux rudiments, aux éléments initiaux du christianisme, parce qu'ils sont charnels, parce qu'ils ne se sont pas développés. Et pourtant, chez les Corinthiens, n'y avait-il pas abondance de dons de grâce ? Une assemblée qui était particulièrement béni par des dons variés. En dépit de cela, on peut, bien que bénéficiant de privilèges particuliers, des occasions renouvelées de se nourrir, de se développer, d'entendre la parole, rester dans un état primitif spirituellement. L'apôtre tiendra le même langage, ou l'écrivain plutôt de l'Épître aux Hébreux tiendra le même langage dans le chapitre 5, lorsqu'il s'adresse aux Hébreux et leur dit qu'ils sont devenus paresseux et qu'en raison de cela, il ne peut pas développer le sujet qu'il avait devant lui parce qu'ils ne sont pas en mesure de le saisir. Ils sont restés des enfants. Ceci place devant nous cette réalité que si d'une part l'enfance présente des caractères rafraîchissants, combien heureux et souhaitable en son temps, il n'en demeure pas moins qu'il doit y avoir croissance. Et la pensée de Dieu n'est pas que nous restions des enfants, mais que nous croissions, cherchant pour la gloire du Seigneur et pour notre bénédiction, et non pas pour nourrir un orgueil spirituel, loin de là, mais pour notre enrichissement spirituel, que nous cherchions cette maturité, cette croissance spirituelle. Mais pour cela, il faut avoir le désir. Et c'est alors l'apôtre Pierre qui, dans sa première épître, reprendra l'exemple de l'enfant pour nous dire que nous sommes appelés à aspirer à cet aliment spirituel, le lait, le désirer comme des enfants nouveau-nés, le pur lait spirituel, pour croître et se développer. Bien sûr que l'on ne pourra se développer et il nous sera accordé de réaliser quelques progrès, c'est ce que l'apôtre souhaitait si ardemment pour son bien-aimé enfant Timothée, que tes progrès soient évidents à tous. Il faut apprécier les choses dans lesquelles nous avons été appris, nous avons été enseignés. C'est l'appréciation d'une chose qui nous la fera cultiver et qui nous produira dans nos cœurs le désir de la rechercher. Dieu veuille que ce soit le cas. L'Écriture place également devant nous deux dispositions, celle des enfants, des jeunes, et celle des parents. Nous pensons à deux situations, deux conditions particulières, qui sont celle de la Pâque, qui nous a occupés cet après-midi, comme aussi celle du Jourdain. Dans les deux cas, nous voyons des enfants qui posent des questions à leurs parents. Que signifient pour vous ces choses? Remarquons qu'ils ne disent pas seulement « que signifient ces choses ?» Mais la question interpelle les parents. Que signifient pour vous ces choses? Quel bonheur pour des parents, sans doute, pour ceux qui ont le privilège d'avoir des enfants et de pouvoir les instruire dans la parole de Dieu, de répondre à de telles questions et de pouvoir leur dire la valeur, le sens spirituel et la signification qu'ont pour leur cœur ces choses. Que signifie pour vous ce service? Que signifie pour vous ces choses? Avec l'âge, nous sommes aussi exposés à pratiquer peut-être de telles choses et en perdre la fraîcheur. Conserve-t-elle véritablement? Nous pensons à la participation au mémorial de la mort du Seigneur. La question posée, qui concernait prophétiquement le résidu, mais qui s'adresse aussi à nous dans les lamentations de Jérémie, n'est-ce rien pour vous qui passez par le chemin? Considérez, voyez s'il est une douleur comme ma douleur. Cette question s'adresse bien sûr à tout croyant qui peut-être n'a pas répondu au désir du Seigneur à cet égard. Mais ne s'adresse-t-elle pas aussi à un frère, à une sœur, voire même participant au souvenir, au mémorial de l'œuvre du Seigneur depuis des décennies? Et par cela, nous sommes exposés à le faire d'une manière formelle, répétée, sans qu'elle ait toujours cette valeur pour nos cœurs, lorsque dimanche après dimanche, il nous est accordé de répondre au désir du Seigneur. Comme on le disait, comme un frère nous le disait, le faisant chaque dimanche comme si c'était la première fois, mais aussi avec la même émotion que si c'était la dernière fois. Du côté des parents, quelle bénédiction, mais aussi quelle responsabilité, mais quelle joie de pouvoir y répondre en enseignant. Et nous connaissons les passages du Deutéronome où des instructions étaient données quant à cette persévérance, cette constance pour inculquer, non seulement apprendre, enseigner, mais inculquer, faire connaître avec persévérance, saisissant toutes les occasions, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu marcheras par le chemin, pour communiquer quelque chose en vue de la croissance des enfants, en vue d'un développement de leurs affections pour leur Sauveur. Quels sont les moyens qui nous accordent de pouvoir croître, nous développer? Ils sont multiples et ont tous leur source dans la grâce divine. De notre côté, il n'y a rien. Autour de nous, il n'y a pas d'avantage. Nous pouvons bien sûr bénéficier de l'encouragement que peuvent nous donner nos frères et nos sœurs, mais les sources se trouvent véritablement dans le Seigneur et ce que nous avons en lui. Or, nous avons en lui toutes choses pleinement. Toutes nos sources sont en lui. Et nous avons sa parole, nous avons son esprit. Et nous avons toutes les ressources nécessaires qui nous permettent de croître. Mais la croissance la plus excellente n'est-elle pas celle qui consiste à connaître sa personne? L'Épître aux Colossiens place devant nous deux exhortations à ce propos. Au chapitre 1er, l'apôtre dans sa prière souhaite ardemment, demande avec instance que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Connaissance de sa volonté pour marcher, et cela d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. On ne peut pas marcher sans connaître, mais nous sommes exposés peut-être actuellement à penser pouvoir marcher sans apprendre à connaître. Connaître pour marcher. Lorsque nous dirigeons dans une contrée inconnue, la première chose que nous ferons, c'est d'acquérir une carte. De peur de nous égarer ou de partir dans une mauvaise direction, combien grand est notre privilège de posséder, on peut dire, les directives infaillibles de l'Écriture. Être rempli de la connaissance de sa volonté qui nous est donnée à connaître par le ministère de la parole de Dieu. Et plus loin, alors, dans le même passage du premier chapitre, l'Épître aux Colossiens, apprendre à le connaître, sa personne, être rempli de la connaissance de Dieu. Le connaître, lui. Une personne que nous aimons, nous ne chercherons à son égard qu'une chose, c'est de la connaître, de vivre près d'elle, d'apprendre le détail de sa personne et de sa vie pour y être plus attaché encore. Et nous avons toutes les ressources. Cette parole que nous sommes appelés à sonder. Sonder les Écritures, c'est le Seigneur qui le disait. Et il le disait à ses disciples, il le répète à nous-mêmes aujourd'hui encore. Une considération, une méditation avec prière, régulière, constante, de tous les jours, mettant à profit tous les moments qui nous sont accordés, pour nous enquérir diligemment de lui. C'est ce que David, dans ce psaume 27e, recherchait par-dessus tout. Il avait demandé une chose à l'Éternel, c'est d'habiter tous les jours de sa vie dans sa maison pour s'enquérir de lui et pour le connaître mieux. Quelle est la mesure vers laquelle nous avons à tendre? Elle n'est rien moins que la personne même du Seigneur. Nous sommes appelés à croître jusqu'à lui. Par la grâce de Dieu, nous sommes enracinés en lui. Nous sommes édifiés en lui et nous sommes appelés à rejoindre, à tendre vers cette stature de la plénitude de Christ. Bien sûr, nous n'atteindrons jamais pratiquement dans nos corps, dans notre vie ici-bas, cette mesure parfaite, infinie. Mais c'est celle que la grâce de Dieu propose à nos âmes pour notre enrichissement, pour notre bénédiction, pour notre développement afin d'atteindre, comme le dit si souvent l'apôtre Paul, cet état d'homme fait, une maturité spirituelle qui procure à l'âme cette spiritualité qui comporte ce discernement de sa pensée accompagné d'un désir d'y conformer nos voies. Il peut y avoir croissance, il peut y avoir bénédiction pendant un certain temps, mais nous le savons bien, rien n'est acquis. Ce qui est acquis et qui est inaltérable, c'est ce que nous avons en Christ en qualité de notre position en lui. Personne ne pourra nous ravir la vie éternelle. Personne ne pourra nous ravir notre titre d'enfant de Dieu. Personne ne pourra nous ravir l'aboutissement de notre espérance dans sa réalisation en gloire. Personne ne pourra nous dépouiller de ce que nous sommes en Christ devant Dieu, rendus agréables dans le bien-aimé. Mais quant à la réalisation, à la jouissance et à la manifestation pratique de ces bénédictions, rien n'est acquis. Nous pouvons jouir d'une manière particulière de la communion du Seigneur aujourd'hui, mais s'il n'y a rien de plus sûr que la position, il n'y a rien de plus fragile que la communion. Et la minute qui passe dans laquelle nous pouvons intensément jouir de la présence du Seigneur, de la communion avec le Seigneur, ne nous assure rien pour la minute qui suit. D'où la nécessité de vivre dans cette crainte du Seigneur. Qu'est-ce qui conditionnait la prospérité des croyants au printemps de l'Église? Toute âme avait de la crainte. Qu'est-ce qui conditionnait également la bénédiction, la paix, l'enrichissement, la croissance des assemblées? C'est Actes 9:31. Elles étaient en paix, elles étaient édifiées, elles marchaient dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas la peur, nous le comprenons bien, mais ce sentiment de sensibilité, d'affection pour Christ, qui conduit une âme qui lui est attachée à redouter et décliner ce qui est de nature à le déshonorer. Marcher dans sa crainte. Mais rien n'est acquis. D'où la vigilance, d'où la dépendance, d'où la prière par laquelle nous réalisons ces choses, lui demandant jour après jour, moment après moment, les ressources de sa grâce. Salomon, nous l'avons cité bien des fois, mais nous aimons le citer de nouveau, est un homme particulièrement privilégié. Il est un homme qui avait une sagesse incomparable, une connaissance que Dieu lui avait donnée qui était insurpassable. Placé dans les conditions les plus favorables, il est tombé. Il a manifesté une croissance remarquable au début de son règne. Mais il est sorti de la dépendance, de l'obéissance, de l'humilité, de la communion, de la crainte. Il n'y a pas d'homme qui ait écrit pour mettre en garde plus que Salomon. Il n'y a eu qu'un auteur des Proverbes. Et pourtant n'est-il pas lui-même tombé dans les pièges au sujet desquels il a mis en garde comme personne d'autre. Qui pourrait prétendre être moins vulnérable que Salomon? On peut croître spirituellement, on peut manifester une vie de Dieu, combien heureuse, ascendante, un temps, il peut y avoir arrêt. Il peut y avoir arrêt. L'apôtre écrivant aux Galates pouvait leur dire, vous couriez bien, qui est-ce qui vous a arrêté? Il y a eu arrêt. Des obstacles, des mises à l'épreuve, des circonstances extérieures, un état de cœur qui n'est pas selon ce que le Seigneur est en droit d'attendre, peuvent produire un arrêt dans la croissance. Les Hébreux avaient fait certainement des progrès remarquables, ayant souscrit au christianisme, mais l'apôtre peut leur dire « Vous devriez être des docteurs vu le temps, et vous êtes encore des enfants, vous êtes devenus paresseux. » Il y a eu arrêt. Que dire de l'assemblée d'Éphèse, dont l'épître nous montre, on peut dire, des conditions spirituelles et des bénédictions du plus haut niveau. Et lorsque nous lisons la courte épître d'Éphèse, qui est la première de ces sept assemblées des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, combien on est affligé. Le premier amour s'était éteint. Combien nous convient d'être vigilants. Le chapitre 21 du Lévitique nous place devant nous sous une forme corporelle, expressive, figurée, ces diverses manifestations de manque ou d'absence ou d'arrêt de développement. Demandons au Seigneur qu'il entretienne, produise dans nos cœurs ce désir d'une vie constante, de proximité, de dépendance, de telle manière que, avec le secours de sa grâce, il y ait ce développement, cette croissance, cette bénédiction constante. Nous ne voulons pas entrer dans le développement détail de ce qui constitue les domaines dans lesquels nous sommes appelés à progresser, nous les citons simplement. Il nous est dit dans la première épître de Pierre au chapitre 2 que nous avons à croître à salut. Nous pourrions dire « Je suis sauvé, comment puis-je croître ?» Il y a une croissance dans toutes les bénédictions et dans toutes les vérités spirituelles chrétiennes qui se rattachent au salut. Car nous le savons bien, le salut initial s'opère une fois pour toutes. Mais nous avons à travailler à notre salut, croître à salut, croître dans la compréhension, dans l'appréciation, dans la jouissance de ce que procure le salut. Dans la même épître de Pierre, au chapitre 3e, sauf erreur, nous sommes appelés à croître dans la grâce et dans la connaissance. Croître dans la grâce. Nous avons peut-être un besoin tout particulier lorsque nous avançons dans la vie chrétienne de prendre à nouveau conscience de la grâce. Que tout est grâce et que jusqu'au dernier pas de notre pèlerinage, nous avons besoin de cette grâce. Cette grâce qui nous a apporté le salut, nous dit Tite, l'épître à Tite. Cette grâce qui nous enseigne, cette grâce qui nous porte, cette grâce qui nous supporte et qui bientôt va nous emporter. Fortifie-toi dans la grâce, croissez dans la grâce. Un autre passage, notamment dans Deutéronome et ailleurs, nous montre qu'il y a lieu de croître dans la prise de possession de l'héritage. Cette grâce divine nous a introduit sur un terrain de bénédiction, un héritage non plus terrestre, comme c'était le cas pour Israël, mais un héritage incorruptible, dit Pierre dans son épître, mais dans lequel nous avons à prendre possession. Israël n'a jamais pris une entière possession de son héritage terrestre. Et Josué même peut dire, et nous lisons dans son livre, dans le cours de son livre, chapitre 13, sauf erreur, qu'il restait un grand pays à posséder. Nous avons devant le regard de nos cœurs, le regard de notre foi, un domaine infini de bénédictions, un héritage merveilleux. Et la grâce nous accorde de pouvoir y pénétrer quelque peu. Que cette même grâce procure dans nos cœurs ce zèle, cet intérêt, ce désir d'entrer dans la possession et dans la jouissance d'un tel héritage. Nous ne pourrons jamais jouir d'une chose inconnue. Nous ne pourrons jamais pratiquer quelque chose que l'on ignore. croître dans la connaissance, croître dans l'héritage, croître dans la prise de possession de ces biens inaltérables, d'un héritage qui nous est acquis, qui est conservé pour nous dans les cieux et pour lequel nous sommes gardés par la puissance même de Dieu. Nous sommes également appelés à croître dans bien des conditions spirituelles, la fidélité, la sainteté pratique. Mais nous pensons aussi à l'enseignement du Seigneur au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, croître dans le fruit porté. Et il désire pour nous que nous portions beaucoup de fruits, plus de fruits. Et pour cela, il faut souvent que le sécateur du divin viticulteur soit employé. Il le nettoie, ce plant qui doit porter beaucoup de fruits. Il faut parfois passer par cette discipline dont nous verrons peut-être quelque chose dans le 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux, pour que les branches sèches soient enlevées et pour que le fruit soit plus abondant. Il y a la croissance aussi dans le service. Paul en fait mention lorsqu'il part. Il écrit à Timothée de ce bon degré acquis dans un service accompli pour le Seigneur. La croissance est pour la terre, mais elle est pour le ciel. Mais elle ne peut être réalisée que pendant que nous sommes ici-bas. Le jour viendra où il n'y aura plus de croissance. Tout à l'heure, le Seigneur, lorsque la promesse de sa venue sera réalisée, faisant retentir ce son de la dernière trompette de la voix de l'archange, lorsqu'il prononcera et poussera ce cri de commandement, rassemblant tous ceux qui sont à lui au jour de sa venue pour les introduire là où la place est préparée, depuis cet instant-là, il n'y aura plus de croissance. Alors, rendus semblables à lui, conformes à son image, nous aurons atteint la pleine mesure de la stature. Mais ce qui sera fait aura été fait par amour pour lui, pour celui qui nous dit « Apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ». Cette connaissance, ce fait d'apprendre de lui comme tel ne produira jamais de l'orgueil spirituel. Qu'il nous donne de le rechercher pour sa gloire, pour notre profit, pour notre bénédiction, pendant que nous cheminons ici-bas, dans la mesure où nos cœurs seront libérés de tout ce qui constitue des entraves à ce développement spirituel, il pourra alors remplir ce cœur de toutes les ressources de sa grâce. Jusqu'au jour alors où nous serons remplis de lui-même, rendus conformes à son image, et où il sera en tout et en tous, tout comme objet, et en tous comme capacité de jouissance.